ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort.
Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Et je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet.
Bienvenue sur 50 à Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Fabrice.
Est-ce que tu peux nous dire qui on va retrouver pour ce premier épisode de 50 à Galaxy ?
Donc pour ce premier épisode, on part pour Montfort-la-Mairie retrouver Jean-Michel Billot, un gourou de l'Internet et du Minitel. Il a entre autres numérisé le secteur bancaire. Il s'est occupé de créer l'atelier BNP Paribas. Il a monté les Billot Show pour interviewer des centaines de startups. En ce moment, il est sur un sujet qui est la transformation numérique de l'État. Il est très intéressé par tout ce qui se fait en Estonie et il aimerait aider ou participer à la transformation numérique de l'État français en étant force de proposition sur des exemples, un prototype qu'il a vu en Estonie.
Merci Nicolas, on retrouve tout de suite Jean-Michel Billot. Jean-Michel Billot, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci. Jean-Michel Billot, racontez-nous la première fois que vous vous êtes connecté à Internet.
Alors, Internet, je connaissais à peu près depuis le début, sauf que la première fois que je me suis connecté, c'était le dernier vendredi d'octobre 1994, sur le web. L'un de mes assistants à l'atelier l'atelier de la compagnie bancaire m'avait installé le premier browser, qui est... je me souviens, qui est celui de
Netscape.
Netscape, ok. Et donc, un vendredi soir, l'atelier était fermé, j'étais tout seul. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour sur Internet. Et donc, je me suis mis vers 8 heures et je me suis rendu compte qu'il était 1 heure du matin quand j'ai terminé, parce que j'ai commencé par la Morgan, le site de la Morgan, pour terminer dans un jardin de néo-zélandais dans les rhododendrons. Et donc j'ai fait une virée absolument incroyable. Et là, je me suis dit, punaise, ça va bousiller le Minitel.
Jean-Michel Billot, quel est l'Internet de vos rêves ?
Ah, bah, il existe aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien dans l'Internet de mes rêves, c'est qu'on a accès à toute l'information que l'on veut gratuitement. On a accès aussi à la connaissance depuis le Web 2.0. On a accès aussi maintenant à... on va accéder à l'expertise gratuite avec l'intelligence artificielle, expertise gratuite pour tout le monde. Et puis surtout, on va arriver, je pense, à la transaction plus ou moins gratuite avec la blockchain. Donc en fait, c'est un champion complet de piling.
Et quel est pour vous l'intermède de vos cauchemars ?
Ben, c'est qu'on soit fliqué, quoi. Mais qu'on soit vraiment fliqué, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être fliqué, mais bon, c'est encore un peu du... c'est pas encore le KGB, quoi.
Alors, pour entrer au cœur de notre problématique, quelle est votre définition de la transformation numérique ?
Le changement de civilisation des êtres humains. On a fait deux grands changements chez les êtres humains depuis notre apparition sur Terre il y a 200 000 ans en Afrique de l'Est. On a fait une première évolution, c'est la révolution agricole et de l'élevage il y a 10 000 ans dans le croissant fertile. Donc on a créé l'agriculture, etc. On avait pu se balader avant pour trouver... On avait notre garde-manger à domicile, nos protéines à domicile. Et la deuxième, c'est la révolution industrielle, il y a 300 ans en Angleterre, où grâce au capitalisme et à la loi des rendements décroissants, on a pu créer des tas de trucs que tout le monde a pu se payer. Et la troisième révolution, c'est maintenant. Moi, je l'appelle la grande disruption. C'est qu'en fait, on va tuer l'organisation des systèmes sociaux mondiaux, les intermédiaires, etc., avec donc de nouveaux systèmes qui arrivent et qui se mettent en place. Et là, c'est la transformation. Et alors, on va aller très loin, on va aller jusqu'au transhumanisme. On va probablement aller sur le, comment dire, dans le cosmos avec Elon Musk et ses fusées, etc. Donc, en fait, c'est une période absolument incroyable que très peu de gens ont conscience de vivre. On a le cul entre deux chaises en ce moment, entre la fin d'un monde et un monde nouveau qui arrive, et la plupart des gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. C'est quand même un peu dramatique.
Alors, concernant la transformation numérique, quels sont, selon vous, les enjeux pour un État comme la France ?
Ben, continuer à faire du pinard, continuer à avoir des musées, etc. Ben, les enjeux pour la France, c'est que il n'y a pas que la France, en fait, il y a toute l'Europe. C'est qu'en gros, quand vous faites un peu de géopolitique numérique, vous avez trois grands secteurs. Vous avez la Chine, qui est extraordinairement bien réveillée, comme dirait l'imperfuite, qui sont très en avance dans des tas de trucs. Vous avez de l'autre côté les États-Unis avec l'écosystème de la Silicon Valley qui a mis en place et qui s'est répandu en Europe, y compris en France. Je vous rappelle quand même que le ministère de la Défense en France et le ministère de l'Éducation est géré avec Microsoft. C'est quand même un peu particulier, enfin bref, pour un État souverain. Et donc ces gens-là vont utiliser, comme l'Europe est, j'allais dire, est has-been, qu'est-ce qu'il y a en Europe pour contrer tous ces braves gens ? On a essayé de faire un Google-like avec Quero qui a foiré, etc., etc. Il y a plein d'études là-dedans. Et donc, on est quand même à la merci des Chinois et des Américains. Et donc, les Français seuls ne pourront pas s'en sortir. Et donc, s'ils ne s'en sortent pas, mes petits-fils qui ont 10 ans, 7 ans et 3 ans, vont se tirer aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où.
Et au niveau du fonctionnement de l'appareil d'État, de l'administration française ?
Combien de temps vous avez là ? Écoutez, on a 6 millions de fonctionnaires et assimilés. On a des strates dans tous les coins, l'administration centrale, l'administration régionale, la commune, les communautés de communes, etc. C'est tout un magma absolument incroyable. Alors, on gère encore avec du papier, avec les documents CERFA, qu'il faut remplir quand vous voulez avoir quelque chose de l'administration. Il faut aller faire des queues dans les préfectures, dans je sais pas quoi. Et donc... on ne va pas s'en sortir. En plus, ça coûte la peau du derrière, ce machin. Et si, je pense, si les taux d'intérêt, par exemple, augmentaient de 2 points demain matin, l'État français sera incapable de payer les fonctionnaires et les retraites. Parce que je vous rappelle que je suis retraité, moi. OK ? Donc, il y a du boulot.
On a fait quand même des progrès, la déclaration en ligne et toutes les démarches administratives qu'on peut faire en ligne.
Bah, toutes. Lesquelles ? Moi, je suis handicapé. Et donc, de temps à autre, j'ai affaire à la maison des handicapés départementale. Mais c'est un boxon absolument incroyable. Normalement, j'ai droit, la France, c'est quand même un pays extraordinaire, j'ai droit à une subvention pour m'acheter un scooter électrique 4 roues pour handicapés, pour aller me balader dans mon bled et prendre l'air. J'ai droit à une subvention de 2 500 €. J'ai fait une demande début octobre avec un document CERFA, papier, qu'il a fallu télécharger, remplir à la main, signer à la main. Deuxièmement, j'ai dû aller voir mon toubib qui a rempli un autre document CERFA pour dire bah, bio, il n'est pas encore complètement à l'article de la mort. Et son scooter, ça serait vachement bien. Troisièmement, j'ai dû faire une copie de mon passeport, copie papier de mon passeport. Quatrièmement, de mon adresse CEDF pour dire que j'habitais bien là où j'habite. Et j'ai dû envoyer ça en lettre commandée en octobre. Okay on est en mars, mi-janvier, j'appelle la fameuse maison des handicapés. Je me suis fait engueuler. Disant, mais monsieur Billot, vous ne vous rendez pas compte, ça fait que 2 mois, vous aurez ça dans je ne sais pas quand. Alors vous vous rendez compte, moi, bon, je ne roule pas sur l'or, je n'ai pas de problème d'argent en général, sauf quand ma femme achète des tas de trucs. Bon, passons, chacun sa croix sur cette terre. Et donc, le mec qui ne connaît rien, qui est devenu handicapé, qui n'a pas beaucoup d'argent, il fait quoi là pendant ce temps-là ? Il fait quoi ?
Donc on a encore des progrès à faire, et vous diriez à quel stade nous en sommes par rapport à l'exemple de l'Estonie ?
Ah bah il y a tout à faire, cher ami, il y a tout à faire. L'Estonie, donc moi je connais un peu ce qui se passe en Estonie depuis quelques années. J'y suis allé avec des amis, donc je suis allé voir un peu ce qui se passait, parce que j'ai pris le temps, malgré mon handicap, d'aller voir, et ça m'a coûté quelques sous d'ailleurs pour aller voir, et je me suis rendu compte que si l'Europe, pas la France, l'Europe ne se met pas à l'heure estonienne, c'est-à-dire qu'elle n'adopte pas la stratégie estonienne du X-Road, etc., l'Europe est morte. On va se faire bouffer par les Américains, on va se faire bouffer par les Chinois. Point barre. C'est d'ailleurs le rédacteur-chef de la revue de l'ENA qui m'a demandé de faire un article pour sa célèbre revue, dans lequel je dis un peu tout ça. Et si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas avec les moyens du bord. Nos fonctionnaires sont absolument incapables de mettre sur pied des choses qui tiennent la route. Louvois, par exemple, le truc, la plateforme pour payer nos soldats, 440 millions d'euros à la poubelle. Quero pour mettre sur la gueule à Google avec Chirac, 225 millions. Comment ça s'appelle, le cloud souverain de Fillon, 175 millions. On a tout foutu à la poubelle. Et on a, depuis le plan calcul du général de Gaulle jusqu'au dossier médical personnalisé, on n'a rien réussi. On a mis des milliards d'euros à la poubelle et en fait dans la poche des copains. C'est comme ça que fonctionne la France. Donc si on ne s'y met pas rapidement, on est out.
Et à votre avis, Jean-Michel Billot, combien de temps les gouvernements pourront-ils tenir avec le paradigme de l'ancien monde ?
Je dirais encore une à deux générations. Pourquoi ? Bien parce que d'abord, vous avez plusieurs éléments qu'on voit actuellement. C'est un, l'Estonie, avec son concept de e-résidence, qui est un début de concept de transnationalité, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans un territoire donné, que l'histoire a dit, ça s'appelle la France, il y a des réglementations, etc. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de travailleurs consultants qui n'ont pas besoin d'avoir leur société en France, enfin ou ailleurs, et qui peuvent travailler dans le monde entier et être rémunérés avec leur conseil dans le monde entier. Donc ça, c'est l'Estonie. Et à l'autre bout, vous avez des mouvements de la civic tech. Donc des gens qui mettent en place des mécaniques pour améliorer la démocratie représentative existante. Et puis à l'autre bout, vous avez des gens qui disent « Oh là là, non, les internautes vont se mettre d'accord au niveau du monde entier et on va créer une nation mondiale. » Donc ça, c'est BitNation, etc., qui est en train de démarrer en ce moment. Alors qu'est-ce qui va arriver ? Moi, a priori, je ne sais pas très bien, mais je pense qu'il y en a encore pour une à deux générations.
Et d'après vous, en 2018, ou sur l'année, quels sont les secteurs économiques qui vont se faire ubériser ?
Ça, c'est une bonne question. D'abord, Uber risque aussi de se faire ubériser avec des gens qui utilisent de peer-to-peer, j'ai pas les noms en tête, là, ou qui se mettent ensemble pour faire le même métier qu'Uber. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ça va être en 2018, ça va être les transports à partir de voitures autonomes, y compris, par exemple, les Français, là-dessus, ont probablement une certaine avance, avec Navia, et qui a une espèce de voiture électrique autonome sans volant et sans pédale. Donc le volant et la pédale, à terme, c'est... Moi, j'attends ça de pied ferme, si je puis dire, parce que j'aime pas trop conduire. Et donc, si je peux être dans ma bagnole, je lui dis, tiens, on retourne à la maison, et qu'en même temps, je peux me connecter sur Internet ou lire un bouquin ou roupiller, ça me va tout à fait. La deuxième, c'est tout un tas de métiers qui vont commencer à être disruptés, c'est tous les sachants 1.0. Tous les mecs qui ont fait des années d'études, les toubibs, les avocats, etc. Alors, ça ne sera pas en 2018, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça démarre maintenant. Et donc, tous ceux qui font de l'intelligence artificielle, par exemple, IBM, dit non, les toubibs, avec notre intelligence artificielle pour les toubibs aujourd'hui, on aide les toubibs. Donc, les toubibs vont rester. Mais dans 10 ans, l'intelligence artificielle va continuer d'évoluer, et va remplacer le toubib. Et ça va être beaucoup plus fiable qu'un toubib. Bon, et donc ça démarre en ce moment.
Jean-Michel Billot, merci.
Bon courage pour le futur. Hein.
Merci.
Merci d'avoir suivi le premier épisode de 50 à Galaxie, le podcast de la transformation numérique. Et pensez à vous abonner pour télécharger automatiquement et gratuitement le podcast sur votre smartphone. Et rendez-vous le 4 avril prochain.